Bonsoir, nous sommes mercredi 28 janvier, déjà le dernier mercredi du mois, et je suis Philippe, et j'ai la chance donc d'animer l'émission Une heure en Palestine sur Radio Galère, en général le dernier mercredi de chaque mois, toujours avec notre super technicien Sidi. Et donc si je suis là, c'est parce que je fais partie de Palestine 13, l'association Palestine 13, donc qui fait partie des structures qui animent cette émission. Parfois c'est l'Union juive française pour la paix, parfois ce sont nos amis qui travaillent sur le boycott des investissements en solidarité. Et donc ce que je veux vous dire à propos de Palestine 13, c'est que nous avons un site internet sur assopalestine13.org dans lequel il y a un agenda qui est vraiment très très bien géré par Samar Saoudi. Samar est l'un des très nombreux Palestiniens qui ont dû s'exiler, lui et sa famille, et qui n'ont pas le droit de retourner au pays. Du coup, il réside à Marseille et on entendra tout à l'heure, on était déjà avant-hier lundi au studio Radio Galère à La Friche, et on a pu enregistrer le témoignage très puissant de Fayez et Mouna, qui sont deux paysans bio de la région de Tulkarem en Palestine, et qui nous expliqueront tout leur travail pour maintenir leur oliveraie en particulier, tout le réseau international qui se mobilise pour qu'à chaque fois qu'un olivier est arraché par l'armée d'occupation, ben, il y en a au moins 10 qui sont replantés. Alors donc, dans cet agenda en fin de janvier, on aura dès demain, donc jeudi 29, à la librairie Maupetit, en haut de la Canebière, la présence de Pascal Boniface qui nous présentera son dernier livre Israël-Palestine, une guerre sans limite, point d'interrogation. Donc c'est aux éditions Erol. Pascal Boniface connaît parfaitement bien l'histoire et l'actualité de ce territoire, et donc rendez-vous à 17h à la librairie Maupetit pour la présentation de son dernier livre. Et alors un petit peu plus tard, à 19h cette fois, un petit peu plus haut, là au 151 boulevard de la Libération, on a la très belle librairie associative Transit, où vont se retrouver Muriel Mordre et Frédéric Guetta-Liviani pour nous présenter un travail sur le thème « Tout ce que j'ai, c'est l'écriture ». Avec elle, je résiste. Et donc, il s'agit du livre de la jeune poétesse palestinienne Dania Flyfield, qui a 20 ans, qui vit à Gaza, et qui nous explique, elle, comme tant d'autres, que finalement, en ce moment, la seule façon qu'elle a de résister, de continuer à vivre, tout simplement, eh ben, c'est d'écrire. Donc, rendez-vous à 19h à la librairie Transit. Et puis, alors là, je suis très content de vous dire que cette fois, ça sera samedi 31 janvier, donc à 18h, on aura la chance de voir ce film dont je parle presque à chaque émission, parce qu'il est disponible en vision sur YouTube, et le titre, c'est tout simplement « Aimer la mer à Gaza ». Et donc ce samedi 31 janvier à 18h, à la salle Fellini, hein, donc c'est quand même une belle salle pour passer du cinéma, au CEC d'Istres, sera projeté ce film en présence de Sarah Katz. Sarah Katz donc, est une femme juive qui vivait à Gaza dans les années 2010, qui a pu embarquer à bord des derniers chalutiers qui avaient encore le droit de pêcher, et qui à l'époque a pu prendre des petites photos, des petites vidéos, et qui finalement ont donné lieu à un film qui a été monté en 2024 avec Samia Ayeb. Et dans ce film, on voit en particulier la jeune femme Madeleine, qui à l'époque veut devenir patron pêcheur. Donc rendez-vous pour voir ce film à Istres samedi à 18h. Et donc pour tout renseignement, il suffit de taper le mail collectif.istréen.palestine@gmail.com. Aimer la mer à Gaza. Voilà, et parfois on a avec moi dans cette émission Marie qui s'est installée assez récemment à Marseille, mais qui est allée très souvent en Palestine et qui est la co-réalisatrice du podcast Yalla, je t'emmène en Palestine. D'ailleurs, à force de l'écouter, ce podcast J'ai de plus en plus de me laisser emmener en Palestine, là, probablement ce printemps. Alors on écoute Marie nous expliquer la catastrophe au niveau artistique et culturel qui est advenue mi-janvier par rapport au dispositif PAUSE qui a été mis en place par la France il y a 2 ans pour que certains artistes ou scientifiques gazaouis puissent être accueillis en France. Alors on écoute Marie.
Bonjour Philippe, bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Galère. J'espère que votre année 2026 a commencé du mieux possible, même si, disons-le franchement, ça part mal. Chaque jour, j'ai un peu plus l'impression que dans ce monde, on marche sur la tête, ce même monde dans lequel certaines décisions prises presque en silence ont pourtant des conséquences humaines désastreuses. Et aujourd'hui, c'est de l'une d'entre elles dont j'aimerais vous parler. C'est une décision datée du 13 janvier dernier qui a sidéré le monde de la culture, de la recherche et de l'enseignement supérieur, mais qui est passée largement sous les radars du débat public. Cette décision, c'est la suspension de l'accès au programme PAUSE pour les artistes et chercheurs de Gaza. Alors le programme PAUSE, c'est quoi exactement ? C'est le programme national d'accueil des artistes et scientifiques en danger en France, porté par le Collège de France, depuis 2017. Un dispositif pensé pour mettre à l'abri celles et ceux dont la vie, le travail, la liberté sont menacés dans leur pays d'origine, et ce, partout dans le monde. Un programme qui, jusqu'ici, incarnait une certaine idée de la responsabilité intellectuelle, culturelle et humaniste de la France. Concrètement, la décision du 13 janvier signifie qu'aucun artiste, aucun chercheur gazaoui ne pourra être accueilli en France via le programme PAUSE jusqu'à nouvel ordre. Et ce n'est pas une mesure abstraite, elle concerne des dizaines de personnes, avec des noms, des visages, des familles, et surtout, elle ne concerne que les Gazaouis. En septembre 2025, une cinquantaine de dossiers avaient été déposés, ces programmes ont été examinés, évalués et même sélectionnés par les comités scientifiques ou artistiques du programme PAUSE, mais voilà, ils attendent toujours une validation ministérielle. Une validation qui ne vient pas. Et pendant ce temps-là, à Gaza, des lauréats de ce programme, censés les protéger, attendent. Ils attendent depuis des mois, parfois depuis plus d'un an. Ils attendent une évacuation, ils attendent une réponse, ils attendent tout simplement de pouvoir sortir vivants. Face à cette situation, la réaction ne s'est pas fait attendre. En une semaine, ce sont plus de 700 personnes qui ont signé une tribune transsectorielle. Arts visuels, spectacles vivants, littérature, cinéma, architecture, enseignement supérieur, recherche, juriste, c'est une mobilisation large, transversale, qui dit une chose très simple, cette décision n'est ni neutre, ni technique, elle est politique et elle va à l'encontre des valeurs que ce programme est censé défendre. Cette tribune, sous forme de communiqué de presse, est portée par le collectif Maran for Gaza, qui a tenu lundi dernier une conférence de presse qui culminait à près de 200 participants et participantes de tous horizons, des structures d'accueil dans le cinéma, la poésie, la littérature, la recherche, le droit. Il y avait aussi des lauréats et lauréates du programme PAUSE et bien sûr aussi des journalistes. Maran for Gaza, c'est un collectif de bénévoles issus du monde de la culture et de la recherche, un collectif qui depuis 2 ans fait un travail colossal, souvent invisible et toujours urgent. Depuis 2 ans, Maran a mis en place des résidences pour 55 artistes de Gaza dans des musées, des théâtres, des centres d'art, des écoles d'art, des universités, des grandes écoles françaises. Grâce à ce travail de fond, fait de dossiers, de coups de téléphone, de mails, de levées de fonds, de suivi administratif et humain, 26 artistes ont déjà pu être évacués et accueillis en France. Avec leurs familles, ça fait donc plus de 150 personnes aujourd'hui qui sont mises à l'abri. Parmi elles, il y a par exemple les frères Nasser, réunis lors de la vague d'évacuation d'avril dernier. France Télévisions leur avait consacré un portrait en mai dernier, 3 semaines après leur évacuation de Gaza.
Je suis Abou Nasser, j'ai 25 ans. Je suis arrivé de Gaza il y a 3 semaines. Je travaille en tant qu'artiste depuis 2021 et c'est grâce à ça que je suis arrivé ici. Une moitié de ma famille est encore à Gaza et l'autre est venue en France. Là, on est en route pour Marseille. Je vais retrouver mon frère Amer et sa femme Nour. C'est avec eux que j'ai quitté Gaza il y a 3 semaines.
À Marseille, il y a des couleurs, alors qu'à Gaza, tu ne vois que du gris.
Tu quittes Gaza, mais Gaza ne te quitte jamais.
Cet extrait dit tout. Le soulagement d'être en sécurité, la culpabilité aussi, la mémoire, le trauma. Ils disent que ça signifie d'être un artiste en exil, celui de continuer à créer, alors même que l'on porte en soi un territoire détruit, une famille restée là-bas. Ça, c'est la réalité des artistes qui ont pu être évacués, mais il y a aussi l'autre réalité, celle des autres artistes et chercheurs qui, elles et eux aussi, sont lauréats du programme PAUSE et qui sont toujours bloqués à Gaza. Et il y a même ceux qui sont bloqués aux portes de la France, par exemple en Espagne, où la procédure de visa est bloquée depuis 4 mois pour l'un d'entre eux. Démonstration qu'il n'est pas uniquement question des difficultés d'évacuation ou de conditions non réunies, comme le laconique mail de réponse des représentants du programme PAUSE le dit, mais bien d'une volonté politique d'empêcher l'accès à la sécurité et la préservation de la mémoire palestinienne que portent en eux les Gazaouis, témoins malgré eux d'un culturicide dont ils sont aujourd'hui explicitement, volontairement empêchés de témoigner. C'est le cas de cette poétesse, Naïma Hassan. Elle parle depuis la bande de Gaza, où elle est encore bloquée avec ses enfants alors qu'elle a pourtant été sélectionnée depuis novembre 2025, ou encore de cette universitaire parfaitement francophone qui demande à partir juste pour souffler, tisser des liens puis revenir pour reconstruire Gaza et continuer ensuite la coopération entre la France et la Palestine. C'est le cas encore de Ahed Helles, qui dénonce une punition collective pour quelque chose qu'il n'a pas fait et qu'il dit au contraire condamné et rejeté. Toutes et tous disent être consternés et déçus par cette décision décrite comme discriminatoire, manifestation de plus d'un racisme anti-palestinien ambiant dans notre société. Transition toute trouvée pour vous parler du projet de loi Yadan, une autre décision consternante. Yadan, c'est le doux nom de la députée Caroline Yadan, députée de la 8e circonscription des Français de l'étranger. C'est un nom alambiqué pour dire qu'elle représente des Français qui vivent à l'étranger, et à votre avis, où ? Eh oui, en Israël. Entre autres, parce qu'elle devrait en représenter d'autres, des Français qui vivent en Italie, à Malte ou encore en Grèce, mais si vous regardez sa campagne et ses engagements, elles sont clairement en faveur des Français qui vivent en Israël. Et cette loi, c'est quoi exactement ? C'est une loi qui élargirait très nettement la définition de l'apologie du terrorisme en criminalisant l'antisionisme sous couvert de lutte contre l'antisémitisme. Parce que criminaliser l'antisionisme, ce n'est pas lutter contre l'antisémitisme, madame la députée, c'est protéger la politique coloniale et criminelle d'Israël. Cette loi est passée de justesse en commission, grâce à l'abstention des socialistes, et est débattue depuis lundi au Parlement. Et est débattue depuis lundi à l'Assemblée nationale. Ce qui est en jeu, c'est notre liberté d'expression. Ma liberté de vous dire tous ces mots que je viens de vous dire, alors tant que je le peux encore, je vais continuer à le dire, de la rivière à la mer, la Palestine sera libre. Merci Philippe.
Non, merci Marie de nous avoir informé sur cette suspension du programme PAUSE. Et parmi les artistes gazaouis qui sont concernés, on a justement pu avoir la chance d'enregistrer le témoignage du professeur de français d'une ex-université de Gaza, puisque malheureusement toutes les universités de Gaza ont été détruites, dont on a pu entendre le témoignage donc lors d'une visio à laquelle j'ai pu participer il y a à peu près 2 dimanches, en plein milieu du Var, près de Draguignan, grâce à l'association Solidarité Var Palestine. Alors on écoute Ziad Medouk qui nous décrit sa situation actuelle à Gaza.
Pour cette invitation virtuelle à participer à cet événement, cette soirée, cette solidarité libre, qui montre un peu la mobilisation et le soutien continu à la cause palestinienne comme cause de justice. Donc pour parler de la situation actuelle dans la bande de Gaza, il y a 5 éléments très importants à souligner. D'abord, le cessez-le-feu est fragile. Deuxième aspect, rien n'a changé ou rien ne semble changer pour les Palestiniens de Gaza. Troisième aspect, c'est la résilience de cette population civile. Quatrième aspect, c'est l'absence de perspective pour l'avenir. Et cinquième élément, c'est le petit espoir avec la volonté de cette population civile. Donc pour entrer en détail de ce sujet, d'abord pour le cessez-le-feu qui était signé le 13 octobre 2025, presque 3 mois maintenant, cet accord est très fragile parce que l'occupation viole au quotidien et bombarde et mène des incursions militaires partout dans la bande de Gaza. Puis l'entrée en vigueur de cet accord de cessez-le-feu, il y a eu 460 morts palestiniens, parmi eux 120 enfants et 30 femmes, et 1300 blessés. Ça montre un peu que l'occupation ne s'intéresse pas à la stabilité dans la bande de Gaza. Pas des garants pour l'application de cet accord de cessez-le-feu. L'aspect le plus grave dans l'accord de cessez-le-feu, que l'occupation, jusqu'à maintenant, contrôle presque 60% de la surface de la bande de Gaza. Il a créé la ligne jaune, c'est-à-dire où les chars et les blindés sont là-bas, Donc personne ne pourra s'approcher, même si les gens ils ont des maisons, ils ont des biens, ils ne peuvent pas s'approcher, sinon ils vont être assassinés par l'occupation. Aspect très important pour dans l'accord de cessez-le-feu, c'est l'entrée de 600 camions par jour. Or, actuellement, il y a presque 200, voire 180 ou 200 camions qui passent par jour. Parmi eux, il y a 50 camions pour la ville de Gaza et les autres camions pour le sud de la bande de Gaza. Par conséquent, l'aide humanitaire est limitée et les prix sont toujours élevés, notamment dans la ville de Gaza. L'occupation, il laisse quelques commerçants locaux de faire importer des produits, soit de l'Égypte, soit de la Cisjordanie. Et comme la quantité est limitée, comme il y a une liste de plus de 75 produits qui ne passent pas, comme les chaises, les tables, le gaz, le fioul, les médicaments, le matériel médical, les prix sont très élevés par rapport aux prix avant le 7 octobre. Et la résilience de cette population civile. La population civile est toujours là. Il a décidé de rester, de ne pas partir. Même si cette population a décidé de rester à côté des ruines de leur maison détruite et de leur quartier dévasté. Les Palestiniens de Gaza, avec leur volonté, avec leur détermination, avec leur patience, ils essayent de réparer s'ils ont des pièces dans les immeubles visés ou ils installent des tentes, même si les tentes sont déchirées et abîmées, parce que les tentes qui arrivent via les organisations internationales ne sont pas solides. Ils ne sont pas faits pour l'hiver. Et on a vu avec les 3 ou 4 vagues de pluie, de vent, de tempête et d'orage. Donc il y a plus de 23 000 tentes qui ont été disparues, qui ont été détruites à cause de la pluie et de la tempête.
Donc on a pu entendre dans Ziad Medouk, grâce à une amie qui a pu capter son témoignage qui était donné en visio, à côté de Draguignan, à La Redonne, dans un tiers-lieu qui s'appelle l'Usine, et dans lequel la très belle Solidarité Var Palestine avait organisé cette visio. Et alors, pour conclure le témoignage de Ziad, quand on lui a demandé quelle était sa journée type, il nous a expliqué qu'après s'être levé, et après avoir pris des forces avec le fameux rituel pain, huile, za'atar, il passe beaucoup de temps en premier pour trouver de l'eau potable, ensuite, pour trouver du bois, pour faire la cuisine, puisque bien qu'il y ait énormément de gaz au large de Gaza, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle les impérialistes capitalistes veulent absolument s'emparer de cette zone, eh bien, il trouve du bois pour faire de la cuisine. Ensuite, il prend du temps pour écrire de la poésie. Et puis surtout, tant qu'il le peut, il fait des ateliers avec des enfants, auxquels il parle bien évidemment en arabe, mais aussi en français, voilà, pour maintenir son travail de professeur de français, de poète et d'écrivain. Et lors de cette après-midi et soirée de soutien à Palestine dans le Var, j'ai eu la chance de retrouver un excellent chansonnier marseillais qui s'appelle Daniel Moreau et qui a écrit une nouvelle chanson qui s'appelle « Enfant de Gaza ». Et on va entendre cette chanson arrangée par Hakim Amadouche. Hakim Amadouche, le magnifique musicien qui était en particulier l'un des principaux musiciens de Rachid Taha et qui continue de faire un travail magnifique pour, avec sa mandole, à la fois nous jouer des musiques d'Orient, mais aussi du jazz. Donc on écoute « Enfant de Gaza » par Daniel Moreau et Hakim Amadouche.
Nous, les enfants de Gaza, notre pays renaîtra.
Nous, les enfants de Gaza, notre pays renaîtra.
Nous, les enfants de Gaza, notre pays chantera.
Nous, les enfants de Gaza, notre pays chantera.
Et rien ne fera taire nos voix sur cette terre.
Et rien ne fera taire sur cette terre.
Toujours nous irons voir aux sources de l'espoir.
Toujours nous irons voir aux sources de l'espoir.
Vous avez compris que cette chanson concerne les enfants de Gaza, mais elle parle à tous les adultes, donc vous pourrez la retrouver en tapant sur les réseaux Daniel Baume, B-E-A-U-M-E, et ça s'appelle Les enfants de Gaza. Elle a été chantée par beaucoup de collégiens à Septèmes-les-Vallons, récemment aussi par d'autres élèves et enfants autour de Draguignan. Et donc chantons-nous les enfants de Gaza. Et donc on va entendre maintenant le témoignage de Fayez et Mouna, qui sont des paysans bio à côté de Tulkarem, en Cisjordanie. Alors nous sommes donc lundi 26 janvier, on est de nouveau à la friche Belle de Mai. Et on aime bien le lundi à la friche parce qu'il y a le petit marché de producteurs paysans. Et justement on accueille aujourd'hui une famille de paysans, Fayez et Mouna. Bonjour Fayez, bonjour Mouna.
Hassan Nour Alain.
Voilà, et j'avais déjà rencontré ces gens-là en 2023. Ils étaient déjà venus à Marseille pour la deuxième fois, c'était le cas. Et pendant une semaine, il y avait toute une semaine d'échanges et de débats sur l'agriculture paysanne en Palestine. Et on avait pu faire avec eux des belles choses à l'espace Mistral. Et puis ensuite, il y avait eu un accueil à la mairie d'arrondissement des 15e et 16e arrondissements avec Madame Boulinceur. Et puis en mairie centrale de Marseille aussi, à l'époque, c'était Sébastien Bach qui les avait accueillis.
Très bien. Merci beaucoup, Philippe, pour cette très belle introduction et explication sur ce qui se passe en Palestine et Gaza et tout l'effort qui se fait ici à Marseille avec tous les collectifs et toutes les actions qu'on fait régulièrement pour la cause palestinienne. Justement, c'est Fayez et Mouna qui vont animer cette discussion. Moi, je ferai que la traduction. Donc, tout à l'heure, il va présenter un petit peu sa ferme. Il va présenter ce qui se passe actuellement, malheureusement, depuis. Donc, il va l'historique, mais il va surtout préciser ce qui se passe actuellement avec toutes les contraintes juridiques qu'il vient d'avoir et le grand projet qu'il mène depuis 2012, à savoir l'implantation de 1 million d'oliviers et pourquoi. Il a démarré ce projet. Donc voilà. تفضل اخي فايز اشرح لنا على تاريخ المزرعه والصعوبات الاداريه والمشاكل اللي عم تواجهها حاليا وركز لنا على مشروع المليون شجره زيتون اللي انتم بصدد انه المشروع الكبير اللي اطلقته من كذا سنه. تفضل.
مساء الخير لكم جميعا، مساء الخير لكل مستمعيكم، وشكرا لكم انكم اعطتونا هذا الفرصة ان نوصل رسالتنا من خلال الإذاعة بتاعتكم.
Alors il dit bonsoir et merci beaucoup à Radio Galère et au collectif, à toutes les personnes qui nous aident et à transmettre notre message aujourd'hui.
أنا وزوجتي الموجودة بجانبي هنا منى، إحنا مزارعين من سنة 1984 حتى اليوم.
Moi et ma femme ici présente Mouna, nous sommes donc des agriculteurs, des paysans depuis 1984 à ce jour. Et justement notre ferme elle est juste à côté de la limite de 1967. On sait que la deuxième occupation de Palestine a été faite en 1967, donc du plan de partage.
سيدي مارس الزراعة في هذه المزرعة في الخمسينيات وأبوي حتى الثمانينيات القرن الماضي وأنا من الأربعة وثمانين حتى اليوم.
C'est une ferme qui a été donc lancée par mon grand-père des années 50 et puis mon père et moi je l'ai hérité donc depuis 1984 à ce jour.
من الوقت اللي أنا رحت فيه لهذه المزرعة بعد وفاة أبوي أشتغل فيها نقلت سلطات الاحتلال مصانع إسرائيلية كيماوية كانت موجودة عندهم في الداخل وحطوها بجنب المزرعة تبعتي على أراضي فلسطينية.
Hélas, depuis 1984, depuis que j'ai commencé à travailler cette terre, cette ferme, de suite, l'occupation a installé des usines, comme il a expliqué Philippe tout à l'heure, des usines chimiques qui débattent sur notre terre.
وفي الوقت اللي أنا وزوجتي كان كل همنا إن نطور هذه المزرعة ونكبرها ونكثر إنتاجها كان هناك كل يوم عن يوم تزيد مضايقات الاحتلال وأصحاب المصانع لإلنا في داخل المزرعة.
Et ma femme, on a beau travailler et voulu agrandir cette ferme et travailler cette ferme, hélas, depuis 1984 à ce jour, jour par jour, donc les contraintes, les contraintes de ces usines chimiques qui polluent sur notre terre et l'occupation ont cessé d'accroître.
ما خلوش وسيلة إلا قاموا فيها ضدنا على أساس إنهم يزهقونا وإن نخرج من هذه المزرعة لكن إحنا حتى الآن موجودين في هذه المزرعة.
Ils ont tout fait pour nous faire abandonner ce projet et donc qu'on l'abandonne, qu'on quitte notre terre, mais on le fera pas, on résistera.
وفي مرحلة معينة من تاريخ وجودنا في هذه المزرعة بلشنا نفكر إنه هذه المصانع الكيماوية بتلوث وإحنا بدنا ننتج إشي خالي من التلويث وخالي من الكيماويات.
La beauté des choses, c'est grâce, je dirais, à ces usines chimiques que j'ai commencé à chercher sur le méfait des produits chimiques sur l'implantation et les produits. Et j'ai compris l'intérêt de la production bio. C'est pour ça que j'ai pris la décision de tout faire en bio.
وهذا مما زاد الصعوبات علينا خاصة إنه فيش عنا بنية تحتية لإشي اسمه زراعة عضوية.
Mais comme vous le savez, l'agriculture bio nécessite énormément d'infrastructures pour pouvoir produire en bio, chose qui n'est pas accessible avec toutes les contraintes qu'on a.
إلا إنه نتيجة إصرارنا على إننا نخرج بإنتاج عضوي قدرنا ننجح ونحقق هذه الرسالة كمان بس بثمن باهظ.
On a continué cette mission de vouloir produire bio malgré qu'on savait que la production bio avec ces contraintes elle va avoir un effet sur malheureusement les prix.
ومنشان نحقق هذا الهدف بشكل طبيعي ونقدر نتحمل احنا توجهنا لفكر معين ان نشتغل فيه في داخل المزرعة.
Et bien sûr, pour la production bio avec toutes ces contraintes, encore une fois, de l'occupation, nous ont poussé à trouver, à innover et trouver des solutions.
وهذا الفكر هو عبارة عن رسالة إنسانية ورسالة سياسية ورسالة اقتصادية في نفس الوقت.
Une solution qui regroupe en même temps un message humanitaire, un message politique et un message économique.
وهذه الرسالة بتقول إنه الماء والغذاء والطاقة متوفرات لكل أبناء البشرية.
Donc ce message principal c'est que l'eau et la nourriture et donc l'énergie est accessible à toute l'humanité. Il va expliquer comment il a innové pour rendre ces trois aspects très importants accessibles.
دون استثناء للجميع مجانا في وقت احنا بنستغل فيه المقدرات الموجودة في الطبيعة ومنقاطع الشركات رأس المال.
Donc, il a innové pour trouver des sources d'eau, des sources donc de nourriture et d'énergie, justement pour arrêter cette dépendance qu'obligent les multinationales par rapport à ces trois aspects.
وعشان هيك
دار الفاصل ما حكيت عليه.
عشان هيك احنا طبقنا هذا الحكي على الارض عنا وبلشنا نستفيد من المقدرات اللي موجوده في الطبيعه ونقاطع هذه الشركات.
Donc on a arrêté de travailler avec ces multinationales et on a trouvé des solutions à l'intérieur justement de notre ferme.
فاستغلينا الطاقه الموجوده في الطبيعه واللي هي الشمس.
Donc pour l'énergie donc on a utilisé bien sûr l'énergie solaire.
من خلالها احنا خمرنا المخلفات الموجوده في المزرعه ومخلفات الحيوانات واخرج منها غاز الميثان واصبحنا نستعمله في الطاقه وفي الطهي وفي انتاج الكهرباء.
Donc grâce à l'énergie solaire, on a aussi utilisé tout le bouse des animaux, on l'a utilisé pour produire du gaz méthane et pour justement grâce à l'énergie solaire et le gaz méthane, on a pu produire l'énergie nécessaire à cette ferme.
واستغلينا طاقة الشمس بأن نجفف الخضروات اللي أسعارها رخيصة منشان نبيعها في أوقات ثانية.
Et aussi bien sûr grâce à cette énergie solaire et ce gaz méthane on a séché tous les fruits et légumes pendant qu'ils étaient après accessibles. On les a séchés pour qu'ils soient possible de les consommer quand les prix vont s'envoler.
واستفدنا من طاقة الشمس في نصب لوحات صيفية وإنتاج طاقة كهرباء اللي تشغل كل الأدوات الموجودة في المزرعة.
On a aussi lancé des panneaux solaires pour l'énergie nécessaire à tous les équipements de la ferme.
في الجانب الثاني اللي هو موضوع المياه من خلال البيوت البلاستيكية اللي عنا عملنا حصاد مائي.
Donc il a résolu le problème de l'énergie, il est devenu indépendant. Maintenant, il vous explique comment il a résolu le problème de l'eau. Et bien sûr, l'eau, il capte toutes les pluies. Donc pour justement pour toutes les serres qu'il y a à la ferme.
ونجمع المياه الأمطار في الشتوية عن الروف تبع البيوت البلاستيكية ونحطه في خزانات ضخمة وهذا عمل لنا وفرة في الماء في الشتوية إن يكون عنا زائد وفرة في المياه.
Donc comme il a expliqué, donc il a utilisé l'eau de pluie sur les toits des serres, il les a captées, il les a mis dans un grand réservoir et grâce à ce grand réservoir, il arrive à irriguer toute l'implantation qu'il a dans la ferme.
وفي موضوع الغذاء أيضا توجهنا إلى الطبيعة وبدأنا نجمع البذور البلدية من عدة أماكن متفرقة ونزرعها في المزرعة ونستغني عن البذور المهجنة جينيا من خلال شركات مانسانتو أو باير.
Et pour le troisième aspect, donc la nourriture, il a compris très vite l'importance d'avoir sa propre banque de graines naturelles. Donc il a échangé avec tous les paysans traditionnels dans la région pour accueillir chez lui ces graines et ainsi arrêter de travailler avec les multinationales tant que Monsanto, etc., qu'on connaît tous, qui modifient génétiquement les graines. D'ailleurs, après Alors, tu veux dire un mot, Philippe, par rapport à ça ?
Merci beaucoup,
Samarie
Fayez.
Je voulais
juste que tous les efforts que nous explique que Fayez a fait sur sa ferme en Cisjordanie me rappellent exactement ce que font les amis de Corsica Palestina au niveau de Vico, en particulier par Giovanni Vuttor, et qui lui aussi, il y a très très longtemps, a lutté contre, par exemple, évidemment, le mainmise de Monsanto sur les graines pour créer un réseau. Participer à un réseau international de paysans que ça soit qui s'appelle Via Campesina. Et donc, c'est forcément que Fayez ne connaît peut-être pas ce mot, mais forcément, je sais que les paysans palestiniens sont, je dirais, agréés par ce réseau. J'ai la chance d'avoir développé ce route de Zatar depuis 4 ans, de transporter des produits palestiniens qu'on reçoit par France Import Palestine, des produits corses. Et tout ce que nous explique Fayez correspond aussi à ce que font des paysans corses.
كتير اللي عم تسووه بالنسبة للماء والغذاء والطاقة، وخاصة من الغذاء كمان في تجربة هون مسوينها في الكورس حكينا عليها قبل شوي، في سووا مجموعة عالمية شان ما يعتمدوش على الشركات العالمية مثل موسنتو اتسيتيرا ويكون مستقلين في هذا الشيء.
Si je peux me permettre, la différence fondamentale, il me semble, c'est qu'en Corse, il tombe beaucoup de pluie. On dit que la Corse est le château d'eau d'Europe. Alors je comprends qu'on puisse récolter l'eau de pluie en Palestine, mais de, vu de mon idée que je m'en fais, il ne doit pas y en avoir tant que ça. Et j'imagine que c'est le principal problème, l'eau, où je me trompe.
Je vais te poser une question. Dans la Corse, il y a beaucoup de pluie. Il n'y a pas de problème de pluie. Il n'y a pas de problème de pluie. Il n'y a pas de problème de pluie. بيقول انه مش كافي كتير للسقي لكل السنة، بتأكد له هذا الشيء؟
بالنسبة لعنا احنا الامطار اللي بنجمعها، المياه اللي بنجمعها في الشتاء بتكفي لفصل الشتاء ولكامل شوي من فصل الصيف، لشانه ما عندي تنكات كبيرة جدا اللي تكفي لكل فصل الصيف، وإلا المياه موجودة بس ما عنديش أماكن لجمعها لتخزينها.
il dit oui c'est vrai que c'est pas comme la Corse les pluies mais quand même il y en a la pluie chez lui mais le grand souci c'est qu'il n'a pas assez de réservoirs et d'outils de matériel pour capter tout ça mais quand même ça avec ce qu'il a fait ça lui permet de passer l'hiver et quelques mois justement après donc il arrive quand même. L'idée qu'il veut pas se faire passer c'est que malgré toutes les contraintes qu'on oblige parce qu'ils font tout pour lui couper tout mais il innove, il trouve des solutions.
انا عندي 10000 متر مربع بيوت بلاستيكيه بالشتويه ولا بشتري كوب واحد بشتروهش مشترى لشان بستغل التنكات ال 500 كوب تنكات اللي موجودة عندي.
Donc il explique qu'il y a 10 000 mètres carrés quand même d'agriculture sur les serres et il arrive quand même avec ce captage à ne pas acheter même pas un litre parce qu'on connaît aussi les prix qui sont appliqués par l'occupation pour les agriculteurs justement pour qu'ils abandonnent tout projet d'agriculture.
فأنا الرسالة اللي بدي أوصلها من خلال الحديث عن هذا الفكر اللي إحنا بنمارسه في المزرعة، بنقول هيك إنه رغم كل ممارسات الاحتلال بالخلع والتدمير والحرق والترهيب عنا في المزرعة، ورغم وجود المصانع اللي بتحيط من المزرعة من جانبين وجدار الفصل العنصري اللي خرب علينا كثير من الجانب الثالث، إلا إنه ما زلنا صامدين في هذه المزرعة.
Donc il confirme justement le grand message qu'il veut, que malgré tout ce qu'il, toutes les contraintes, et même il a subi plusieurs fois des tentatives de feu, de mettre le feu sur sa bâtisse, de sabotage plusieurs fois, sa banque de graines a été sabotée aussi plusieurs fois, malgré tout. Et malgré aussi la pollution des usines chimiques juste à côté, et aussi il rajoute que le mur de séparation, il a été implanté dans sa ferme qui lui a fait perdre 50% de la surface. Tout ça, ça n'a pas empêché lui et sa femme de résister et de continuer ce beau projet.
هذا على المستوى التكتيكي، لكن في هناك شيء أعظم اللي هو على المستوى الاستراتيجي. انت لما استغليت طاقة الشمس ما حدا في الكوكب بيقدر يمنع الشمس تيجي عليك وانك انت تستغلها. لما انت استغليت المياه اللي نزلت من السماء ما في حدا في الكوكب بيقدر يمنع المي انها تنزل عليك وانك انت تستغلها، ولا حدا في الكوكب بيقدر يمنع البذور الاشتال اللي انت موجودة عندك وانك انت تستغلها، وهذه الحرية الحقيقية وهذا هو السيادة على الغذاء في نفس الوقت.
Et le grand message qui veut dire que moi en tant que Palestinien avec malgré toute l'occupation je me suis fait ma liberté dans l'énergie parce que personne ne peut m'empêcher d'utiliser l'énergie solaire, personne ne peut empêcher d'irriguer avec l'eau de la pluie et avec les graines que moi-même que je stocke etc que je cultive personne ne peut aussi m'empêcher de continuer à faire de l'agriculture de paysanne.
من شان هيك من كل أحرار العالم استغلوا المقدرات اللي في الطبيعة وقاطعوا الإمبريالية والرأسمالية.
Et à la fin il dit pour tous les hommes libres et femmes libres du monde utiliser les ressources naturelles et boycotter et arrêter de travailler avec les multinationales. Rien ne vous oblige de vous faire trouver vous-même aussi des solutions d'échange avec ce que vous avez comme sous la main de solutions alternatives.
هذه هي رسالتي الأولى الخاصة في المزرعة لكن رسالتي الثانية والأعظم والأكبر اللي هي أنا في عندي رسالة عظيمة بشتغل إلها طول عمري اللي هي زراعة مليون شجرة زيتون في فلسطين.
Ça c'est le premier message que je voulais adresser aux hommes et femmes libres du monde, mais j'ai aussi une deuxième mission, une grande mission que j'ai initiée, c'est sur le projet d'un million d'implanter un million d'oliviers en Palestine. ليش المشروع هذا؟ Pourquoi ce projet؟
هذا المشروع أجت هذه الفكرة نتيجة الظلم اللي بيقيمه الاحتلال علينا خاصة أنه في إحدى مراحل حياتنا في سنة 2002 بدأ يبني جدار حول الضفة الغربية اسمه جدار الفصل العنصري وخلال بناء هذا الجدار دمر كثير جوانب من حياتنا.
Ce projet a été donc en réponse à toute l'injustice de cette de l'occupation qui à partir de 2002 a commencé à construire ce mur de séparation qui a énormément nui à nos vies. Il va expliquer comment.
واحدة من هذه الجوانب اللي هذا الجدار دمرها في حياتنا هو اقتلع من خلال مساره مليون شجرة زيتون مليون ونصف شجرة زيتون.
Un des aspects donc qui a nuit à notre vie quotidienne, il va expliquer, c'est pas uniquement un aspect financier, mais un peu plus, il va l'expliquer puisque on a assisté hier à la conférence justement qu'il a donnée à l'empreinte au week-end décolonial. En 2002, ce mur de séparation, ils ont pour l'implanter, ils ont arraché 1,5 million d'oliviers.
فلما أنت تطلع على منطقة كالضفة الغربية منطقة صغيرة تشوف هذا الكم الهائل من الأشجار يقتلع بذكرك في العديد من القضايا.
Et connaissant que vous connaissez bien que Cisjordanie c'est une petite ville, donc et lui a arraché de cette petite ville 1,5 million d'arbres d'oliviers, donc les conséquences, elles sont très néfastes, pas que économiques.
القضية الأولى إنك تخلق هذول المليون ونص شجرة في منطقة صغيرة جدا قد الضفة الغربية هذا أثر كثير على المناخ وأثر كثير على البيئة عنا في فلسطين.
Donc la première conséquence elle est tout à fait logique, c'est l'écologie qui subit après avoir arraché 1,5 million d'arbres d'une petite surface.
السبب الثاني طبيعة التربة طبيعة الأرض أن هناك أغلبها جبلية وتربة خفيفة فأفضل المزروعات لإلها واحدة من أفضل الزراعات فيها تكون شجرة الزيتون.
En deuxième, c'est la nature du sol et du sol de la Cisjordanie. C'est une sol. La Cisjordanie, c'est pas une terre plane. C'est des petites montagnes. Et ce sol, il n'est pas fait pour tout type d'agriculture, mais il est fait spécifiquement pour ce genre d'implantation, ce qui est l'olivier. Donc ils savent bien que en enlevant l'olivier, on peut pas le remplacer facilement par d'autres choses.
كمان من الناحية الغذائية والأمن الغذائي إحنا هناك في فلسطين مش هونغ كونغ مش بلد صناعي إحنا بلد بسيط بلد زراعي وبيعتمد على الزراعة بشكل كبير في أمنه الغذائي وبالتالي عماد الزراعة عنا في فلسطين هو شجرة الزيتون اليوم إحنا بنحكي عن 18 مليون شجرة زيتون عنا موجود في البلد.
Et pour vous donner une idée, donc le troisième aspect, c'est l'aspect financier. Nous, en Cisjordanie, principalement, c'est un pays, donc on n'est pas une ville industrielle, on n'a pas d'usines, etc. On vit principalement sur l'agriculture, donc l'ensemble de la petite population de la Cisjordanie vit sur l'agriculture, donc et principalement sur l'olivier, ce qui est donc enlever ça, donc enlever la sécurité alimentaire de la Cisjordanie.
السبب الرابع هو من ناحية وطنية كمان.
Et le quatrième aspect c'est un aspect nationaliste donc révolutionnaire.
إحنا العالم كله أصبح يعرف اليوم هناك في نماذج للشعب الفلسطيني في سامبولات للشعب الفلسطيني.
Donc le monde entier connaît les trois symboles de la Palestine qui sont.
وهذولا فيش واحد منهم بكل أهمية عن الثاني.
Et les trois symboles sont très importants.
أو الكوفية الفلسطينية أو شجرة الزيتون.
Que soit la
كوفية. هذولا صار الرموز وطنية للشعب الفلسطيني.
Que soit la كوفية palestinienne ou ou le drapeau palestinien, ou bien sûr l'arbre, l'olivier. Donc c'est les trois symboles qui plaisent à Abton. Donc ils connaissent l'importance du troisième symbole qui est l'olivier. C'est pour ça qu'ils sont, qu'ils font tout pour les arracher.
بس السبب الخامس والأخير اللي هو سبب ديني كمان.
Une cinquième raison, c'est une raison reliée aussi à la religion.
يعني هناك كأغلبية مسلمة موجود في هذاك البلد حتى في القرآن الكريم اللي هو كتاب رباني نزل اسم شجرة الزيتون في أكثر من آية قرآنية.
Et l'aspect religieux est aussi présent parce que nous la plupart des citoyens en Cisjordanie sont soit de confession musulmane ou chrétienne et dans le Coran, donc le livre des musulmans, il y a plusieurs versets qui parlent justement de l'olivier. Donc, ils attachent beaucoup d'importance les musulmans aussi derrière.
هذه الأسباب كلياتها مجتمعة خلتنا نفكر في إننا نطلق شعار بخلعوا شجرة بدنا نزرع عشرة وبدل المليون بدنا نزرع مليون.
Et c'est pour ces cinq raisons qui nous ont dicté, obligé de penser à ce gros projet d'implanter un million d'oliviers et on a même un slogan maintenant. Bikhla ou Shajara, s'il arrache un olivier, Bnizra Ashara, on va implanter Ashara, c'est 10. Donc c'est ça le message. Ils enlèvent un, on remettra 10.
Ok, alors c'est très très important qu'on nous rappelle à quel point l'olivier est un symbole, et bien évidemment pour se nourrir, mais aussi par rapport à la qualité de la terre, mais aussi, là justement je fais le lien avec un des poèmes de Ziad Medou qui parle de l'olivier, on le plante avec son sang, avec sa sueur. Alors, ce que je ne comprends pas très bien, c'est que donc depuis 2002, des oliviers par milliers, par millions ont été arrachés. Actuellement, sur quelle terre Fayez va pouvoir planter des nouveaux oliviers, sachant que sa terre est polluée, etc. Et l'autre question que je voulais poser aussi, on a compris que le message de Fayez pour tous les paysans du monde, c'est d'arriver à être autonome avec ce que donne la nature là où on est, évidemment en adaptant les plantes qu'on sème. Donc à part l'olivier, actuellement dans les serres que Fayez donc, réchauffe avec des panneaux solaires, qu'il peut irriguer grâce à la récupération de la pluie, est-ce qu'il y a d'autres productions, d'autres fruits, d'autres légumes, ou est-ce que c'est idiot la question que je pose? J'imagine qu'il n'y a pas que des oliviers.
Dans sa ferme, il n'y a pas, mais il va mieux l'expliquer lui. Fayez, مشروع كتير حلو وفهموا الأسباب الخمسة اللي عم بخليك شو اسمه المشروع المليون شجرة لكن نفهم كمان إنه الاحتلال عم بيحاول ياخد كل الأراضي وما يخليكم أراضي عشان تستصلحوها وتزرعوا شلون رح تزرع المليون وين رح تزرع المليون شجرة هذه سؤال أول السؤال الثاني إنه حتما انت في المزرعه تعتمد على الزيتون لكن حتما زرعت اشياء تانية كمان شو الاشياء التانية اللي ممكن نزرعها وندافع عليها في المزرعه
طيب اولا يعني بالنسبه للسؤال الاول المتعلق في زراعه المليون شجره زيتون هي رسالتنا لكل الاحرار في العالم انه اللي بحب يدعم الشعب الفلسطيني يشارك في زراعه لو شجره واحده كحد ادنى اذا يشارك في دفع ثمن شجره زيتون نزرعها هناك في فلسطين عندنا الاراضي واسعه جدا هناك اراضي كبيره جدا ممتده حتى الان بكر ما زرعتش نهائيا بعدين كثير من المزارعين اللي عندهم اراضي مش كلها مزروعة بعدين احنا بنعطي المزارعين كمان اللي تخلع لهم الشجر ففي ثلاث اماكن المكان الاول اللي انخلعت محله شجرة بدنا نزرع شجرة المكان الثاني باك الاراضي اللي عند المزارع اللي لسه ما انزرعت نهائيا شغلة ثالثة الاراضي اللي فاضية فيها الجبال فيها المساحات الواسعة هاي اللي ممكن تستغل وينزرع فيها
Donc, en répondant sur la première question pour Philippe, le message qu'il essaie justement de donner aujourd'hui, c'est pour tous les citoyens libres du monde participer à cette campagne internationale. Il y a une campagne internationale, et surtout en France, pour implanter ces 1 million d'oliviers. Vous pouvez justement la consulter un peu partout sur plein d'associations qui la défendent, mais surtout l'AFPS. Rendez-vous sur le site de l'AFPS, vous allez arriver aux campagnes et l'une des campagnes que l'AFPS lance régulièrement, c'est cette campagne et ça coûte 3 fois rien. Je pense, si ma mémoire est bonne, c'est 10 euros pour implanter un olivier. Donc on peut tous être actif, à participer à ce très beau projet. On vous invite à le faire. Et pour répondre, oui, on a cette problématique de terre, mais nous, on la résout sur trois aspects. Premièrement, là où on enlève un olivier, donc dans les terres des paysans où ils subissent cet enlèvement, comment on dit ça ?
Arrachage.
C'est là, on leur donne justement à chaque plante, chaque olivier arraché, on les rembourse, on les redonne pour implanter donc d'autres plats. C'est une partie. La deuxième, c'est les parcelles où il n'y a pas assez d'oliviers, donc on peut implanter. Et la troisième, c'est toute la partie, on l'a expliqué tout à l'heure, que les montagnes, etc., même ces parcelles, elles peuvent aussi accueillir, recevoir ça. Donc on a des solutions d'échange et on est conscient qu'on peut arriver à ce projet. La deuxième question.
بخصوص موضوع المزرعة بتقديري هذه كانت قصة نجاح ملهمة لكثير لآلاف الناس في العالم وعلى رأسهم الفلسطينيين اللي أطفال بيجوا من المدارس بتدربوا طلاب جامعات بتدربوا جروبات أجنبية بيجوا بتدربوا في هذه المزرعة فكانت بتأدي رسالة إنسانية وسياسية وتعزيز صمود وبالتالي بتستحق هذه المزرعة اللي بسبعة ثمانية 2025 اجى قرار من الاحتلال بوقف العمل فيها تمهيدا لهدمها بتستحق انه تتعزز صمودها وانها تندعم كحد ادنى ان نحاول نخرج هذا النموذج من المكان اللي هو موجود فيه نبنيه في مكان اخر وظل مستمر ملهم لكثير من الناس.
C'est bon, répondons sur la deuxième justement la ferme, cette ferme je l'ai ouverte. On l'a ouverte, la famille l'a ouverte aux universitaires. On reçoit chaque année 400 à 500 universitaires, donc étudiants du cycle agriculture pour faire leur stage pratique. On fait des formations pour des enfants, mais surtout on reçoit énormément de délégations internationales pour faire visiter la ferme et cette expérience, parce qu'on a eu l'autonomie et pour justement expliquer comment on a eu l'autonomie de ce qu'on a expliqué. Malheureusement, le 7 août passé, on a eu une décision de l'occupation d'arrêter de travailler dessus. Et bien sûr, on a été notifié qu'en quoi ils vont la détruire complètement. Mais nous, on souhaite, donc on a lancé bien sûr une bataille juridique pour se défendre. Quoique on sait contre qui on se défend, donc les tribunaux israéliens, donc on n'espère pas énormément, mais quand même il y a une campagne pour casser cette décision. Et au même moment, on lance une alternative, on veut s'implanter ailleurs et on demande aussi un aspect solidaire pour pouvoir s'implanter ailleurs et dupliquer cette bonne expérience. Voilà.
Ok. Donc je crois que le message est très important. On reçoit comme message de la part de Fayez et Mona et de tous les gens qui sont sur leur terre, qui ne veulent pas quitter leur terre. Même s'il y a le mur, ils restent. Même s'il y a la pollution, ils restent. Ils trouvent des solutions. Et là, je lis la charte donc, de ces fameux paysans corses. Créer, c'est résister. Qu'on crée de l'huile d'olive à partir de Zalibou, les poèmes de Ziad Medouk, etc. Mais ce qui est très important, c'est qu'on ne peut pas résister contre une armée aussi puissante, contre des colons qui, en plus, maintenant, je dirais, ont les coups des franges pour faire encore plus d'exactions, de crimes, etc. Mais on a à côté de nous une jeune femme qui y est allée l'automne dernier. Alors, ça fait des années que chaque automne, des gens de tous les pays du monde viennent aider les paysans palestiniens à récolter leurs olives. Mais on peut y aller encore aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si tu veux nous dire quelques mots de ce que tu as vécu l'automne dernier, justement, avec Fayez, à Tulkarem, pour récolter les olives. En quelques mots, comment ça s'est passé pour toi? C'était la première fois que tu y allais, je crois.
Oui, absolument. C'était la première fois que j'y allais. Et le fait d'aller là-bas pour récolter les olives, ce qui est une chose qui est complètement possible, ça fait partie des choses qu'on peut mettre en place pour répondre à la situation pour la population palestinienne, c'est-à-dire y aller physiquement. Et en fait, la deuxième chose qui est possible pour essayer d'agir et de répondre aux besoins de la population palestinienne, c'est de pouvoir ramener des témoignages pour pouvoir produire des contre-narratifs sur ce que la propagande israélienne en fait essaie d'imposer en termes de narratifs sur ce que c'est que la population palestinienne. Et donc en fait, aujourd'hui, c'est pour ça que c'est très important que Fayez et Mona soient là pour pouvoir porter eux-mêmes ces témoignages et pour pouvoir dire eux-mêmes l'histoire qu'en fait, nous, on nous a demandé de rapporter par ailleurs.
Voilà, merci beaucoup. Et c'est sûr que la radio est un moyen de témoigner. On connaît tous les autres. Il y a les films qui passent sans arrêt. On a à Marseille l'équipe Festival Ciné Palestine. Actuellement, il y a le film Palestine 36. Mais ce qui est surtout important de comprendre, bien sûr que nous, on a des informations très très complexes à décrypter à travers nos médias. Heureusement qu'il y a des médias alternatifs comme le site internet Asso Palestine 13, comme Radio Galère. Mais la réalité, c'est que bien sûr, plein d'oliviers sont arrachés, mais il y en a encore qui sont là et des paysans qui produisent. Et donc, c'est tout à fait possible à l'automne 2025 d'y aller. Moi, je n'y suis pas encore allé. Ce qui est possible aussi, bien sûr, c'est d'acheter, de consommer les produits de Palestine qu'on a de la chance d'avoir de par le monde. Alors en France, en particulier, il y a l'AFPS qui, depuis plus de 20 ans, a organisé une filière d'importation. Il y a bien sûr également France Import Palestine. Et pour ma part, ben, j'espère pouvoir y aller au printemps prochain, hein, parce que le Philistin qui va régulièrement, on sait que les producteurs produisent. La difficulté actuelle, c'est qu'une fois qu'ils ont produit sur place, avec tous les dégâts que cause l'armée d'occupation et les colons pour faire circuler des camions, c'est de plus en plus compliqué. Mais des palettes finissent par arriver au port. Là, c'est encore compliqué, mais on espère que prochainement, au printemps 2026, un nouveau conteneur arrivera. Sauf que je dirais la catastrophe supplémentaire que subissent les Palestiniens, c'est qu'en 2025, le volume récolté d'huile d'olive a été beaucoup plus faible que les autres années, en partie à cause, bien sûr, de tous les empêchements, de toutes les agressions que fait subir l'armée d'occupation, mais aussi parce qu'il y a eu une terrible sécheresse. Et donc je sais qu'il y a actuellement un circuit qui se met en place pour importer de l'huile des pays voisins, afin déjà que le volume soit suffisant en Palestine pour que les Palestiniens aient un prix correct pour la consommer, et pour qu'in fine, quand elle arrivera chez nous, elle soit à un prix tellement agréable.
Super.
Et voilà. Très et donc, bien sûr que c'est très important d'y aller. Il y a des organismes qui permettent d'y aller. Je pense en particulier à Diwan Voyage qu'a fait Sabri Giroux. Et puis, en tout cas, il y a deux façons évidentes d'aider, de se sentir utile. C'est de témoigner quand on y va. C'est de raconter les films qu'on a pu voir. C'est d'aider financièrement. On a dit c'est vraiment pas cher d'aider à planter ne serait-ce qu'un olivier. Et puis, voilà, de faire ce qu'on fait. J'insiste une dernière chose pour dire que tous ceux qui subissent ces agressions, on a une admiration folle de ce qu'on appelle le soumout palestinien, cette capacité de résister, d'endurer, mais on nous dit que même si les actions qu'on fait semblent petites pour eux, pour ceux et pour celles qui résistent de façon incroyable, et bien chaque fois qu'il se passe quelque chose, que leur produit est vendu, que leur film est montré, que leur poème est lu, bien pour eux c'est une raison supplémentaire de se lever le matin avec la force du za'atar et le soumout.
Super.
Oui, et si je peux rajouter quelque chose, je pense que tu as commencé en expliquant comment est-ce que vous vous étiez rencontrés la dernière fois, c'est-à-dire que Fayez et Mona avaient été accueillis dans des mairies ici à Marseille, et je pense que c'est important de préciser que c'est possible, et en tout cas que actuellement, vu la situation, que des élus locaux et pas seulement puissent clairement prendre position en faveur de la cause palestinienne et puissent clairement se mobiliser, ça constitue non pas un exploit, mais en fait un minimum vis-à-vis de la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Et je pense que pour terminer, on peut leur demander s'ils ont une dernière chose à rajouter.
Je vais leur expliquer tous les beaux mots que vous avez dit.
Et je précise par rapport à ce qu'a dit notre camarade que bien sûr que tous les élus ont la responsabilité de s'occuper des citoyens, mais le message de Fayez, c'est qu'on est des citoyens du monde. Voilà, et qu'avant tout, ceux qui ont des responsabilités, quelles qu'elles soient, des associations, des élus, ils doivent s'occuper des citoyens de leur circonscription, mais aussi écouter les citoyens de leur zone qui les alertent sur les citoyens du monde. Et on doit en particulier de s'occuper tout simplement que les gens aient de l'eau, là, le truc fondamental, que les gens puissent planter leurs graines. Ça, c'est la base. Et il n'est pas question là, d'histoire de religion, je ne sais pas quoi. On est là parce qu'on est tous des citoyens du monde. Et merci infiniment, Fayez et Mouna, du message que vous nous envoyez.
أنا بس بدي أحكي ملاحظة صغيرة جدا
إنه
لسوء الحظ إنه منى عشان في عندها وعكة في الصحية بأسنانها هي ما حكت اليوم بس منى
que ma femme Mouna, elle a eu un petit souci médical, donc elle a eu un souci de dents, donc elle a perdu quelques dents malheureusement avant-hier, et c'est pour cela qu'elle n'a pas pu témoigner, mais
حبيت أقولكم إنها منى عندها المقدرة تحكي أكثر مني وبتعمل في المزرعة أكثر مني.
Mais je dois préciser que Mouna a la possibilité de raconter et de donner beaucoup plus que moi, et surtout c'est elle qui gère la ferme totalement, donc c'est elle la chef.
Malheureusement, on n'entend pas la voix de Mona. Je peux témoigner de son regard extrêmement chaleureux et volontaire. Alors, on sait bien que l'olivier, c'est masculin, mais l'olive, c'est féminin. L'huile, c'est féminin. Hein, on a besoin de tous et de toutes pour contribuer à ce que cette fameuse huile de Palestine prospère le plus longtemps possible. Merci, choukran infiniment. Et merci à Radio Galère. Merci, Sidi. Merci Sidi pour le montage de cette émission. J'ai juste le temps de rajouter, pour ceux qui veulent donc goûter ces fameux produits palestiniens, rendez-vous le dimanche 15 février au dernier événement au bout de la mer de la mairie des 1-7. Vous tapez au bout de la mer sur internet et on peut se retrouver devant la consigne sanitaire avec l'association Marseille Capitale de la Mer et le stand Route du Zaatar. À bientôt à la fin du mois de février. C'était Philippe.